Donc on va parler un petit peu du frelon asiatique. Alors tout le monde connaît, hein, c'est la grosse invasion biologique de ces dernières années en Aquitaine, hein, et qui s'est étendue, à, on va dire, à tout le territoire européen maintenant. Alors, le frelon, c'est donc un vespidé, hein, famille des vespidés, c'est un hyménoptère social, et c'est vrai que les hyménoptères sociaux font partie des insectes qui ont une propension à invasion biologique, on va dire, parce qu'ils ont un certain nombre de caractéristiques qui en font des bons envahisseurs, des bons colonisateurs de nouvelles niches. Hein. D'une part, leur socialité, qui fait qu'ils ont tout un tas de plasticité au niveau des tâches, au niveau du comportement, qui leur permettent de s'adapter à vraiment différents types d'écosystèmes, et qu'en plus, les frelons ont un fort potentiel reproducteur. En plus, donc, c'est une espèce qui est très agressive, qui est très défensive de sa progéniture. Donc, c'est des envahisseurs qui sont connus depuis longtemps. Vous voyez quelques références biblio. Si vous les voulez, vous m'enverrez par mail un mail et je vous donnerai les vraies références. Donc, on est dans la situation où, invasion biologique, en 2004, on avait en Europe une seule espèce native, qui était le frelon européen, que tout le monde connaît, hein, qui est d'ailleurs un auxiliaire d'agriculture. On verra à la fin de l'exposé que le frelon asiatique est peut-être en train de devenir un auxiliaire d'agriculture, d'ailleurs, aussi, progressivement. Donc on a une invasion biologique qu'on a parfaitement bien retracée. Donc là, je prends une figure d'un travail de thèse qui a eu lieu à Juif-sur-Yvette, hein, Marie-Angela Arca, qui a fait la génétique des populations de cette invasion. Donc on sait, alors j'ai pas de pointeur, mais enfin vous voyez sur l'image du haut, donc une invasion biologique qui provient de Chine. De manière très anecdotique, vous avez une fondatrice qui rentre dans un conteneur qui n'est pas surveillé, qui traîne sur un quai, il vient sur via un bateau, tout se passe bien sur le bateau, il y a à manger pour la descendance de la fondatrice, et le nid n'est pas détruit, et vous avez une fondatrice. Donc on sait maintenant qu'il y a une fondatrice ou deux fondatrices qui sont rentrées en France à côté d'Agen, hein, donc importation de poterie, mais peu importe, ça aurait pu être autre chose, et qui vient progressivement s'installer. Donc vous voyez le point d'introduction, c'est l'étoile ici. Donc on est bien à côté d'Agen, chez une pépinière bonsaï, d'ailleurs, le pauvre, hein, mais ce n'est pas de sa faute, hein, cette affaire-là. Et donc on a un premier nid en 2004, qui a été d'ailleurs observé tout de suite, hein, par les apiculteurs, par le muséum, etc. etc. Et ben, vous voyez, tous les petits points sont autant de nids. Hein. Alors là, cette diapo-là, cette carte, elle est de 2010, je crois. Alors depuis, il y en a évidemment beaucoup plus, et on va suivre les flèches rouges un petit peu. Donc, extension de l'invasion vers l'Espagne, vers l'Italie. On en a maintenant en Belgique. Et donc, ça va pas, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas à la Suisse assez vite et à l'Allemagne assez vite. Et par exemple, la région centre a eu une très forte explosion démographique l'année dernière, hein, où il n'y avait pratiquement pas de nids il y a 2 ans. Et là, cette année, je crois qu'ils ont répertorié au moins 500 nids ou quelque chose comme ça. Donc, l'Aquitaine est évidemment principalement touchée. Pour mémoire, le GDSA, qui est la structure, donc syndicat d'apiculteurs, qui détruit la plupart des nids, je crois que l'an dernier, ils ont détruit plus de 3000 nids, hein, quelque chose comme ça. Évidemment, tout n'a pas été détruit. Voilà. Le cycle biologique, pour dire que c'est un cycle annuel, donc, puis aussi pour voir un petit peu, donc évidemment, on a différents types, ce qu'on appelle des castes, hein, chez les insectes sociaux. Donc, vous voyez les différents individus, vous voyez la reine en haut à gauche, vous voyez l'ouvrière en haut à droite, donc la reine n'est pas tellement plus grosse que les ouvrières, et vous voyez les mâles qui sont un petit peu plus petits. Alors, par exemple, en ce moment, on trouve beaucoup de mâles, hein, qui sont produits au niveau du nid, et je reçois des mails de gens qui me livrent des informations qu'on trouve des frelons asiatiques sur le lierre, sur différentes plantes, c'est souvent des mâles, par exemple. Voilà, on ne sait pas exactement pourquoi ils y vont, mais bientôt on le saura, je pense. Pour ceux qui n'ont jamais vu de nid, ben vous en voyez ici, perché en haut des arbres. Donc un nid, c'est quelque chose qui peut faire jusqu'à une grosse structure comme ça, qui peut faire 1 mètre, 2 mètres de diamètre. Et c'est un remarquable bâtisseur, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Donc ce sont des nids en papier mâché. Voilà. Et néanmoins, ce sont des nids qui sont très solides et qui durent toute la saison. Arrêtons-nous un petit peu sur les incidences de cette invasion. On va dire qu'elles sont 3 types, comme toute invasion d'ailleurs. Une invasion qui est de type écologique. Alors, on connaît mal les incidences sur l'écosystème en général. Donc, on a un nouveau prédateur qui rentre, hein, et qui vient se mettre en compétition avec l'ancien prédateur qui existait, hein, qui était le frelon européen. On sait néanmoins qu'il y a un appauvrissement de la faune, de l'entomofaune en particulier, et de la faune pollinisatrice. Donc, on sait qu'il s'attaque principalement aux abeilles domestiques, mais on sait aussi qu'il s'attaque à des abeilles sauvages et à d'autres insectes aussi. Hein, est observé des prédations sur les mouches et des choses comme ça. Et je disais tout à l'heure qu'il est peut-être en train de devenir un auxiliaire de culture, c'est qu'on commence à voir des observations de prédation, en particulier probablement conséquence à la compétition interindividuelle pour la nourriture, des prédations d'insectes ravageurs de culture. Mais pour l'instant, ça reste encore anecdotique. Incidence économique, évidemment, qui là encore est difficile à chiffrer. Peut-être qu'on en discutera dans la table ronde de la manière de quantifier ces incidences assez rapidement, parce que le problème, c'est qu'il faudrait les quantifier assez rapidement, en tout cas pour l'apiculture. Alors, paradoxalement, puisque c'est un gros prédateur d'apiculture et que la pression date de 2004 et qu'elle est très forte, dans le monde de l'apiculture, on a un petit peu de mal à chiffrer exactement les pertes, en termes de professionnels, j'entends. Ce qu'on sait néanmoins, c'est, alors on a des données de nombre de ruches qui assuraient auprès des compagnies d'assurance, qui diminuent fortement, d'apiculteurs amateurs qui ont cessé leur activité à cause de ça, voilà, et des pertes de rendement importantes. Bon, néanmoins, on verra ça à la fin de l'exposé aussi, c'est que les abeilles commencent à se défendre, il commence à y avoir des mécanismes de régulation naturelle. Autre incidence économique, alors là, qui est clairement sociétale et individuelle, c'est que quand on a un nid dans un jardin, et que maintenant l'espèce est devenue, a été classée nuisible, on est obligé de détruire son nid. Donc le coût de destruction d'un nid varie énormément, alors selon que c'est quelqu'un, un apiculteur qui vous le fait, ou c'est, on va dire, c'est presque bénévole, enfin, faut mettre un petit peu de sous dans la cagnotte pour leur rembourser les frais, jusqu'à de la destruction par société privée professionnelle, qui peut monter jusqu'à 1 000 euros une destruction de nid, on trouve de tout. Parenthèse au passage, c'est que le précédent gouvernement a demandé aux pompiers de ne plus détruire les nids. Donc il n'y a plus de destruction publique par des structures publiques. Voilà. Le coût sociétal, alors j'ai appelé ça sociétal, mais alors c'est un petit peu la trouille. C'est un insecte qui vit beaucoup au contact de l'être humain, comme beaucoup d'insectes sociaux d'ailleurs. Donc ça terrorise un petit peu tout le monde, aussi bien quand on voit un frelon sur l'étal du marché que quand on a un nid dans son jardin. Il y a aussi toute une terreur qui a été d'ailleurs amplifiée pas mal par les médias, donc il y a eu des cas de mort par piqûre qui ont été décrits, c'est évidemment faux. Donc normalement, il n'y a qu'une ou deux morts depuis 10 ans qui ont été avérées d'ailleurs par des études scientifiques et par la police scientifique qui est souvent impliquée dans cette affaire-là, avec présence de venin. Par contre, évidemment, comme pour tout héminoptère, il y a des problèmes de choc anaphylactique, étant donné que les venins d'héminoptères sont tous allergènes et fortement allergènes. Mais il n'y a pas plus de danger avec un frelon qu'avec une abeille ou qu'avec une guêpe. Et beaucoup de piqûres sont dues à des chocs allergiques sur piqûres de guêpe ou d'abeille. Au passage, on va faire remarquer donc que la DL50 du venin de frelon est beaucoup plus faible que celle d'abeille, c'est-à-dire avec la même quantité, il faut plus de quantité de venin pour tuer la même quantité de... Alors ça a été testé évidemment pas sur l'humain, mais sur les souris, mais donc on a un venin qui est bien moins mortel que celui d'abeille. Il y a des raisons évolutives à ça. Voilà, donc classé en 2012, alors là, moi, je pose une question, on en débattra peut-être un peu, c'est pourquoi faut-il attendre 8 ans, introduction 2004, classement espèce nuisible en 2012, pourquoi faut-il attendre 8 ans pour que l'espèce soit classée nuisible? Donc ça, c'est une question qui pourra peut-être venir sur le débat. Et puis, je voudrais finir l'exposé en disant que, bah, comme dans tout système biologique, il y a des régulations naturelles qui se mettent en place. Donc c'est vrai que nous, écologistes, on ne voit pas non plus le même type d'incidence, de pression, et on n'a pas non plus le même pas de temps qu'une pression apicole, par exemple, qui souffre. Mais l'écosystème finit toujours par se réguler. Alors souvent, les proies se défendent dans tout système. On ne se laisse pas faire. Donc vous avez quand même une abeille qui est capable de piquer, comme on a dit, avec un venin qui est très mortel. Logique, puisqu'elle pique une fois dans sa vie, l'ouvrière d'abeille. Donc autant que le venin soit efficace quand même. Ça ne servira à rien, puisqu'elle va mourir derrière. Donc vous voyez une jolie photo là, que j'ai empruntée du net, où on trouve le dard qui est extrait de l'abdomen. Et après, normalement, l'ouvrière va partir et perd son dard et va donc mourir. Et vous avez des comportements collectifs, photo du milieu, qui commencent à se mettre en place. Alors nous, on est sur Apis mellifera en France. Apis serrana a pas mal de... qui est une autre espèce d'abeille, particulièrement celle qu'ils ont en Asie, qui a tout un tas de comportements de défense collectifs qui sont très efficaces. Néanmoins, ils commencent à se mettre en place chez notre abeille à nous. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et puis vous avez évidemment l'être humain qui s'occupe des abeilles et qui soigne ses colonies et qui participe beaucoup à la défense des abeilles. Et puis d'autres ennemis naturels qui se mettent en place. Alors bon, c'est un sujet qui est très médiatique, donc sur le net on voit plein de choses, et puis à chaque fois il y a des reportages télé nouveaux, les poules ont attaqué les frelons, oui, les poules attaquent les frelons, oui. C'est quelque chose quand même d'assez anecdotique, et je ne pense pas qu'on puisse, vu les taux d'expansion de l'invasion biologique, qu'on puisse s'en remettre aux poules devant les ruches pour régler le problème, mais elle participe néanmoins du système quand même, et du système de régulateurs naturels. Et comme à chaque fois, quand on veut réduire une population d'un envahisseur biologique souvent très efficace, on ne peut pas s'en remettre à une seule méthode. La méthode miracle ne marche pas. Donc c'est des successions, des juxtapositions de régulations naturelles qui se mettent en place. les mésanges et puis un certain nombre d'oiseaux qui se mettent à attaquer. Donc ça, c'est quelque chose qui est réel. On commence à suspecter aussi les pies d'attaquer les frelons, mais enfin, là encore, c'est quelque chose d'anecdotique. Et je voulais mentionner aussi, alors, photo du bas, donc vous avez une mouche, hein, une taquinaire. Les diptères taquinaires sont souvent des parasites qui ont un rôle de parasitoïde, donc qui parasitent tout un tas d'autres insectes. Donc là, j'en parle parce qu'il y a eu tout un battage médiatique qui est fait par des collègues du CNRS qui ont trouvé quelques nids de frelons qui sont parasités par, par une espèce donc, qui s'appelle Conops vesicularis, donc une mouche relativement grosse, néanmoins. Bon, on ne sait pas à quelle vitesse ça va s'étendre, hein, ça, donc l'efficience que ça aura réellement. Le gros problème de cette espèce, c'est que c'est un réel danger, puisque c'est une espèce qui est généraliste, c'est un parasitoïde qui est généraliste et qu'il est répertorié depuis longtemps comme parasitoïde possible très dangereux des bourdons et des abeilles. Et de tout un tas de... Donc s'il monte en population parce qu'il se met à apprécier le frelon, ce qui risque de se passer quand même, et ben quand les populations de son hôte, l'hôte sur lequel il a glissé, vont se mettre à baisser, s'il effectue la régulation, il va bien falloir qu'il se rabatte sur autre chose. Il ne va pas se laisser mourir de faim. Donc évidemment, il passera au bourdon et puis aux autres insectes sociaux. Et là, ça peut mener à une catastrophe écologique. C'est une réflexion qu'il faut qu'on ait aussi sur l'élaboration de méthodes de lutte. On en a des méthodes de lutte. Vous voyez au milieu, par exemple... J'ai mentionné des propagules de nosema. Donc la nosema, c'est une maladie que tout le monde connaît bien chez les abeilles. Hein. C'est un parasite de plein d'insectes et qui est très efficace. Si ça se met à passer au frelon, le problème, c'est que ça peut attaquer aussi d'autres espèces. Voilà. Et j'ai un tour en bleu. Et ben celui qui normalement aurait dû être victime de l'invasion, on le pense au début, et qui a repris du poil de la bête, qui est le frelon européen. On s'est aperçu depuis 3-4 ans que les populations, en particulier en Aquitaine, de frelons européens... augmentait. Alors, il y a deux hypothèses. C'est soit ça augmente parce que réellement, il y a moins de pression insecticide dans les écosystèmes, et que lui, effectivement, il est en haut de la chaîne trophique, hein, prédateur d'un certain nombre d'insectes, et donc il bénéficie de ça aussi. Mais, alors, nous, une hypothèse qu'on a formulée assez longtemps, hein, nous qui travaillons sur le frelon asiatique, c'est qu'il bénéficiait de un petit peu stratégie cheval de Troie, c'est-à-dire il profite de l'arrivée de l'envahisseur pour venir lui aussi prédater des abeilles dans le système. Et puis, on commence à s'apercevoir que finalement, il ne se fait jamais massacrer par le frelon asiatique. Et là, on commence à avoir des premières données de compétition entre les deux, et avec des combats entre les deux. Et s'il remonte en population, il peut très bien, lui aussi, faire une partie du travail. Donc c'est quelque chose, par exemple, pour la boue, sur lequel on commence à travailler sur le rôle du frelon européen dans une possible régulation. Puis je voudrais dire aussi qu'il y a quand même un des gros problèmes pour l'apiculture mondiale, c'est un certain nombre de produits phytosanitaires, de pesticides. Hein. Enfin, on ne va pas rentrer là-dessus. Mais que le frelon, ça fonctionne comme une abeille, hein, c'est-à-dire en gros tout ce qu'il ramasse, il va le rentrer dans le nid. Donc tous les effets non intentionnels des pesticides sur les abeilles, on risque de les retrouver assez vite, et en particulier tous les l'effet des neurotoxiques sur le frelon asiatique, étant donné qu'il rentre tout. Donc vous connaissez les effets qui sont pas très visibles, outre la mortalité sur les abeilles, les effets sur des doses sublétales, hein, de perte de capacité amnésique chez l'abeille. Donc à perdre la mémoire, à perdre les capacités d'orientation, etc., etc. Normalement, il devrait se passer les mêmes choses sur le frelon. Et il commence à y avoir des premières observations qu'on voit passer avec des frelons qui auraient des comportements bizarres, c'est-à-dire qui voleraient moins bien, qui marcheraient moins bien, qui seraient moins agressifs, des choses comme ça. C'est à l'état d'hypothèse pour l'instant, mais c'est peut-être un début d'effet de pesticides sur ces bestioles-là. Donc la situation n'est pas forcément noire. Et moi, je fais partie de ces gens qui pensent que les régulations naturelles ou pas naturelles, en l'occurrence, c'est pas naturel, mais vont se mettre en place et peuvent peut-être régler le problème. Les abeilles ont toujours pas disparu, a commencé à se défendre de manière assez efficace. Il y a un certain nombre de publications là-dessus. Et a commencé à beaucoup mieux se débrouiller devant la pression de prédation, bien que la population de frelons augmente. Et ce que peuvent croire certains que l'an dernier, les populations ont diminué, c'est... Ça fait partie des fluctuations de l'écosystème et de l'environnement. L'an dernier était une année qui était très peu favorable pour beaucoup d'insectes. Et donc cette année, on remonte en population. Et l'an prochain, ça devrait être quelque chose. On devrait avoir des explosions démographiques et on devrait compenser ça. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup.